Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Sébastien Krebs, et avec la suite du programme.
Avec Isabelle Millet qui s'installe pour le journal de 19h. Vous le savez, à partir de 19h, on se tourne vers l'actualité de demain et donc du week-end avec une réouverture attendue par les catholiques ce week-end. Le sanctuaire de Lourdes rouvre ses portes à 19h20. Je reçois son recteur, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas. Et puis à partir de 19h30, nouveau rendez-vous le vendredi. On va partir en balade déconfinée dans les coins cachés de la France. Ce soir, on va être sur la Côte d'Azur avec Frédéric Michel. Voilà, on écoute Le Monde Changer ensemble jusqu'à 20h.
Et votre grand journal du soir, c'est avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs. Il est 19h sur Europe 1.
On a réservé une chambre dans les arbres, cabane dans les arbres. À moins de 100 km près de Fontainebleau, pour avoir un peu de nature, on en manque. Ça fait rêver.
Et on n'a jamais autant rêvé de liberté. Premier week-end de déconfiné, week-end de tous les dangers.
Du monde sur le site de réservation de la SNCF pour juillet-août, depuis qu'Edouard Philippe a annoncé que les Français seraient autorisés à partir en vacances. Du monde, mais pas le grand rush attendu.
Emmanuel Macron attendu au tournant sur la réforme des hôpitaux. Ce matin, il a reconnu ses torts et promis cette fois d'être au rendez-vous.
Reconnaître les erreurs, oui, ça prouve au moins qu'on commence à nous écouter. Et par contre, les actes, c'est beaucoup mieux.
L'événementiel, les salons, les foires sont-ils les grands oubliés du déconfinement? On entendra dans ce journal le coup de gueule du responsable du parc des expositions de Marseille.
Et vous le savez, dans ce journal de 19h, on se projette sur demain. Demain en France, y aura-t-il des jolies colonies de vacances cet été?
Et demain dans le monde, avec cette question qui agite la marine américaine. Le porte-avions Theodore Roosevelt est-il en état de reprendre la mer? 5 nouveaux cas de contamination détectés à bord sur des marins qui avaient pourtant été testés négatifs il y a quelques jours.
La tendance météo, Anissa.
Avec beaucoup d'orages demain dans le sud-est de la France, le temps est vraiment très maussade. Au nord, c'est toujours aussi beau, une journée estivale demain. Alors je sais que vous détestez les spoilers, Sébastien, mais celui-ci, vous allez l'aimer, parce que je vous annonce avec un petit peu d'avance que la semaine prochaine sera vraiment très belle, et pour tout le monde.
Elle est parfaite la semaine prochaine.
Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec Sébastien Krebs et Isabelle Millet.
Et un premier week-end après 8 semaines de confinement, comme une impression de liberté. Beaucoup d'entre vous vont sans doute vouloir en profiter pour prendre l'air, pour sortir, pour voir des amis.
Alors ce sera évidemment un week-end test, mais attention, parce que si le déconfinement nous donne la possibilité de faire des choses, de prendre un peu l'air, tout n'est pas permis pour autant. Jean-Jacques Herry, vous avez sondé les Parisiens cet après-midi. Comment comptent-ils occuper leur week-end?
Eh bien, ils ont tous quelque chose de prévu pour ce week-end, mais pas forcément dans un gîte au fin fond de l'Île-de-France. Certains se contenteront simplement de franchir le périphérique pour prendre leur shoot de nature et de pollen. Demain après-midi, par exemple, direction le bois de Vincennes pour Fabienne et sa famille.
On l'a fait mercredi, déjà. Ça nous a fait énormément de bien de voir de l'herbe et des feuilles et des arbres et tout ça. Parce qu'on est resté confinés pendant 2 mois dans un appartement parisien. Donc c'était un peu dur.
En fait, beaucoup ont un peu peur des contraintes de transport, des contrôles sur la route et de l'affluence dans les train. Alors pour Marie, dimanche, ce sera juste un petit trajet en RER depuis la gare du Nord jusqu'à Rosny-sous-Bois, quelques kilomètres à peine, mais une immense joie à l'arrivée avec des retrouvailles familiales depuis longtemps espérées.
Oui, je suis contente. J'ai prévu d'aller chez mes enfants dimanche. Je les ai pas vus depuis 2 mois. Ils ont une maison avec un jardin. Je vais les voir avec leur petite fille.
On sent qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes dans l'air, hein, et que pour partir plus loin, nombreux sont ceux qui préfèrent attendre un peu, ou au moins jusque la semaine prochaine, comme Claire, pour le week-end de l'Ascension.
On a réservé une chambre dans les arbres, cabane dans les arbres. À moins de 100 km près de Fontainebleau, pour avoir un peu de nature, on en manque. Ça fait rêver.
Et là-bas, au moins je ne serai pas obligé de porter un masque en permanence, m'a-t-elle dit en souriant.
Ça fait rêver en effet, reportage de Jean-Jacques Herry.
Voilà, et puis aussi, on sort de sa ville, on garde un justificatif de domicile sous la main, parce qu'il y aura des contrôles ce week-end. Et pour ceux qui ont la chance d'habiter en bord de mer, certaines plages sont à nouveau accessibles depuis aujourd'hui sur la côte atlantique ou dans la Manche. Liberté là aussi à consommer avec modération.
Oui, des plages rouvertes, mais pas pour bronzer, hein, ni pour pique-niquer. En revanche, les baigneurs, les marcheurs, les surfeurs et les plaisanciers, eux, sont de nouveau les bienvenus. Et beaucoup de Français devraient également occuper leur week-end à réserver leurs prochaines vacances d'été. Vous savez qu'hier, Edouard Philippe a annoncé que nous pourrions partir en juillet et en août en France. Ce matin, donc, la SNCF a ouvert ses ventes. Alors, il y avait du monde, mais pas de bousculade jusqu'à présent sur le site Oui SNCF pour réserver. Emmanuel Duteil.
Oui, la fréquentation du site Oui SNCF a plus que doublé par rapport à la semaine dernière, 120% de progression et les ventes ont été multipliées par 5. On est sur le double d'une journée normale de mai pour vous donner une petite idée. Mais malgré tout, pour une journée d'ouverture de vente d'été, on est encore sur de tout petits volumes. La SNCF s'attend à ce que ça s'amplifie ce week-end. Les destinations les plus recherchées sur le site Oui SNCF sont, selon nos informations, dans l'ordre Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille. C'est assez classique. Et comme quoi tout le monde n'est pas trop rassuré pour le moment, les Français réservent sur de très courtes périodes. On est sur des séjours de 2-3 jours pour le moment et principalement sur des week-ends selon le groupe ferroviaire. La SNCF prévoit pour le moment de faire rouler 100% des TGV et intercités prévus cet été. Mais sauf si la réglementation devait évoluer, elle ne vend qu'un siège sur deux pour respecter les distances de sécurité. Si vous avez un doute, sachez que les billets sont de toute façon échangeables et remboursables sans frais.
Et c'est important. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
On vous en parlait des 18h. Emmanuel Macron était ce matin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Visite surprise. Le chef de l'État a reconnu une erreur sur sa stratégie pour l'hôpital engagée il y a 2 ans.
Interpellé à plusieurs reprises, il a pris l'engagement de mettre fin à la paupérisation des personnels soignants avec de meilleures rémunérations, des carrières revalorisées et davantage d'investissements. Le ministre de la Santé entamera des concertations la semaine prochaine.
Des promesses, mais pas de chiffres, pas de concret, regrette Rémi Brancardier, membre du collectif Interhôpitaux qui attend beaucoup de ses réunions avec Olivier Véran.
Reconnaître les erreurs, oui, ça prouve au moins qu'on commence à nous écouter. Et par contre, les actes, c'est beaucoup mieux.
Recevoir les organisations syndicales, c'est bien. À partir du moment où il y a du concret, c'est simple, les revendications n'ont pas changé. Nous, d'ores et déjà, on réclame 300 euros d'augmentation, mais pour tous. Ça va du médecin, à la femme de ménage, à l'agent technique. Parce que tout le monde a fait son travail, tout le monde s'est serré les coudes. Ensuite, nous, ce qu'on réclame, c'est des embauches à la hauteur des besoins identifiés, mais pour chaque service. On veut du matériel. Après, ce qu'on veut, c'est remettre les soignants vraiment au cœur des décisions concernant le service et l'hôpital. Si, à l'issue de ces réunions, ils peuvent ressortir avec un calendrier d'action, bien sûr que ce sera un vrai pas en avant. Mais on demande à voir. Honnêtement, on demande à voir et on demande surtout à ne pas être déçu.
Rémi, membre du collectif Interhôpitaux avec Hélène Terzian. Les manifestations de gilets jaunes interdites demain, notamment à Montpellier ou à Toulouse, sur les réseaux sociaux, des appels à des rassemblements ont été lancés ces derniers jours dans plusieurs villes de France pour ce premier week-end de déconfiné. On a beaucoup parlé du secteur du tourisme, de l'hôtellerie-restauration ou bien des bars qui souffrent énormément mais qui commencent quand même à entrevoir le bout du tunnel dans les zones vertes, notamment a priori les restaurants et les cafés pourraient rouvrir début juin.
Aucune perspective en revanche pour le milieu de l'événement qui ne sait pas de quoi demain sera fait. Depuis 2 mois, aucun salon, aucune foire, aucune exposition n'est organisée. Du coup, coup de gueule ce soir au micro de Nathalie Chevance, de Loïc Fauchon.
Il est le président de la SAFIM qui gère le parc des expositions de Marseille, le parc Chanot.
Nous constatons aujourd'hui qu'on ne traite pas toutes les activités de la même manière. On voit des centres commerciaux avec 10 000, 20 000 personnes, 30 000 personnes dans le week-end et on a bloqué tout l'événementiel. Culturel, sportif, et pour ce qui nous concerne, celui des salons, des foires, des expositions. Je m'insurge contre ce traitement qui est fait à des dizaines de milliers de salariés qui aujourd'hui sont au chômage technique, sont parfois licenciés. Et donc les Français ont le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Et ça suffit d'être dirigé par quelques centaines de personnes à Paris qu'on ne voit jamais, qui sont dans des bureaux et qui n'ont aucune connaissance des affaires du terrain. Qu'on nous laisse libre et qu'on nous laisse travailler. Mais nous allons prendre des initiatives. Et il faudra que l'État nous refuse ces initiatives.
Lesquelles par exemple ?
Des activités culturelles, sportives que nous allons proposer. Et la population sera témoin qu'on laisse un tout petit peu d'autonomie aux gens et qu'on leur fasse confiance, surtout qu'on leur fasse confiance et qu'on arrête de nous prendre pour des enfants.
Loïc Fauchon qui gère le parc des expositions de Marseille avec Nathalie Chevance. Le championnat d'Allemagne est la première compétition majeure de football à redémarrer demain. Le monde entier aura un œil bien sûr sur la Bundesliga qui doit prouver que le sport professionnel peut vivre avec le coronavirus. On suivra ça évidemment avec attention dès demain.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs.
À suivre dans votre journal de 19h, on se projette sur demain. Demain en France, nos enfants vont-ils pouvoir partir en colo cet été ?
Et puis demain dans le monde, les marins du Theodore Roosevelt vont-ils pouvoir reprendre la mer alors que 5 nouveaux cas positifs viennent d'être détectés à bord ?
La suite du journal sur Europe 1 avec Isabelle Millet, Sébastien Krebs et on se tourne vers l'actu de demain sur Europe 1.
Demain en France d'abord. Bonsoir Jean-Pierre Montanet.
Bonsoir Sébastien.
Alors les vacances d'été se précisent, mais le flou persiste sur les colonies de vacances. Est-ce qu'on entendra cette ambiance cet été? Les colonies vont-elles survivre au Covid, Jean-Pierre?
Ben c'est une grande question. Le gouvernement s'est donné jusqu'au 2 juin avant de trancher. Il espère alors y voir plus clair sur deux points. La limite des 100 km pour les déplacements et l'autorisation des rassemblements seront-elles levées ou pas? Si c'est niet, autant dire que les jolies colonies passeront hélas à la trappe. En attendant, le gouvernement planche sur un protocole sanitaire strict dans la même veine que celui mis en place à l'école pour encadrer aussi bien les colonies de vacances que les camps de scouts.
Quel est l'état d'esprit des organisateurs?
Ah bah, ils sont dans les starting blocks, hein, impatients de savoir ce qu'on va leur imposer, si le feu vert est donné, quel sport autorisé, combien d'enfants maximum dans chaque colonie. J'ai parlé avec Anne Carayon, un patronne de jeunesse au plein air qui regroupe des organisateurs comme l'UCPA. Pour elle, l'esprit de la colo est un peu contraire avec la distanciation sociale. Alors sa théorie est de dire que la colonie fonctionne comme une famille confinée qui se protège de l'extérieur. Bon, d'accord, mais alors faudra-t-il tester moniteurs et enfants avant de partir, ou la prise de la température au début du séjour suffira-t-elle? Tout ça est encore un peu vague.
Il y a encore beaucoup de questions. Il faudra voir aussi si les parents auront confiance aussi en laissant leurs enfants. Autre question, Jean-Pierre, question tarif. L'épidémie va-t-elle rendre plus cher les séjours?
Eh bien, Anne Carayon, elle a déjà fait l'addition. Un plus d'animateurs pour fractionner les groupes, plus de personnel pour désinfecter les locaux et des chambres à revoir pour les aménager afin d'éviter la promiscuité. Eh bien, le tarif moyen de la semaine à 500 € grimpe entre 10 et 15%. Si l'État ne prend pas en charge ce surcoût, elle voit mal les organisateurs se lancer dans l'aventure cet été. Le gouvernement, m'a-t-on dit, a promis une aide, mais il compte ses sous avant d'annoncer quelle enveloppe exacte il pourra débloquer.
Ouais. Voilà encore une autre question donc en suspens pour l'été. On l'avait pas encore soulevée celle-là, mais elle est importante pour beaucoup de familles. Merci Jean-Pierre Montanet.
À lundi. Demain dans le monde maintenant, autre ambiance avec vous Didier François. Bonsoir Didier. Cette question Didier qui agite la marine américaine, le porte-avions Theodore Roosevelt est-il en état de reprendre la mer?
Oui, alors vous souvenez, c'était début mars, les marins font alors une véritable ovation au commandant du navire sanctionné pour avoir réclamé l'arrêt de sa mission parce que son équipage était contaminé par le Covid-19. Le capitaine Rozier avait même été accusé par le secrétaire d'État à la Navy d'avoir provoqué une tempête dans un verre d'eau. Et bien pourtant, à peine arrivé à quai sur la base de Guam au milieu du Pacifique, plus de 1100 marins étaient testés positifs au virus sur un équipage de presque 4000 personnels. Ce n'est pas rien et l'affaire ne s'arrête pas là puisqu'effectivement, hier, après 3 semaines de confinement, une désinfection complète du bâtiment, l'état-major de la Navy a fait remonter à bord 2900 marins avec comme objectif de partir au plus vite en opération, a priori au début de la semaine prochaine, parce que profitant de l'absence du groupe aéronaval américain, la marine de Pékin a renforcé ses positions dans les zones disputées de la mer de Chine. Vous savez, les fameux récifs militarisés autour des îles Spratly, où on a tout d'un coup vu surgir des nouvelles structures en dur présentées comme des centres de recherche.
Et pourtant, le déploiement du Theodore Roosevelt risque bien d'être reporté.
Eh ben oui, parce qu'au moment du réembarquement de l'équipage, 5, c'est bien le cas de le dire, l'hôpital, 5 nouveaux cas de contamination ont été détectés sur des marins qui avaient pourtant été testés négatifs il y a quelques jours et qui étaient donc considérés comme guéris. Donc pour eux, quarantaine, de même que pour 18 de leurs camarades avec lesquels ils avaient eu des contacts, et puis relance des procédures de contrôle. Vraiment, comme on le dit, quand ça veut pas, ça veut pas.
Effectivement, merci beaucoup Didier François, on vous dit à lundi.
La promiscuité dans les porte-avions, les Américains ont leur Roosevelt, nous on a notre Charles de Gaulle. Merci, et c'était oui. Le journal d'Isabelle Millet, on vous retrouve à 19h30 pour le rappel des titres. Anissa, la météo orageuse.
Oui, dans le sud-est, hein, principalement Sébastien, demain sur les Alpes et la Provence, le temps est très agité demain avec à la mi-journée sur les Pyrénées, le Massif central, sur la Provence, sur la vallée du Rhône et les Alpes, des orages qui vont éclater dans l'après-midi, ils seront localement assez forts. En Corse, le temps reste sec mais le ciel sera souvent voilé et puis un peu plus au nord, sur le Limousin, l'Auvergne, la région lyonnaise, là aussi le temps reste sec mais les nuages seront un petit peu plus nombreux. Alors au nord, hein, au nord de la Loire, sur cette fameuse limite Bordeaux-Lyon, au nord de cette ligne. Là, c'est l'été. Demain, avec un ciel bleu azur, aucun nuage et un soleil très généreux. Donc sur la moitié nord, encore une fois, demain, la journée sera très belle. Les températures, elles sont encore fraîches demain matin, avec 4 à 8 degrés sur la moitié nord, 8 à 15 au sud. Elles seront un petit peu plus agréables l'après-midi. On va gagner un petit degré, voilà, par ville en moyenne, avec 15 à Cherbourg, 17 à Caen et au Puy-en-Velay, 19 à Besançon et Carcassonne, 20 à Paris, 21 à Bordeaux, 23 à Marseille et jusqu'à 26 à Ajaccio. Je vous l'ai promis en début de journal, je vais vous spoiler la semaine prochaine parce que franchement ça fait du bien, c'est bon pour le moral. Ça y est, le beau temps est de retour et pour tout le monde, il n'y aura pas de jaloux. À partir de lundi, le soleil brille sans exception sur toute la France. Donc encore un peu de patience dans le sud et dès lundi, ça devient très sympa.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Sébastien Krebs et avec l'interview de demain dans un instant.
Le déconfinement sur l'un des sites religieux les plus fréquentés de France, le sanctuaire de Lourdes. Son recteur, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, mon invité dans deux minutes, le sanctuaire de Lourdes qui rouvre partiellement à partir de demain.
Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous Sébastien Krebs. Demain rouvre partiellement le sanctuaire de Lourdes. Vous recevez son recteur, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas.
Bonsoir Monseigneur Ribadeau-Dumas, merci d'être avec nous en direct. Le sanctuaire de Lourdes va donc rouvrir après une fermeture qui était sans précédent, hein, 2 mois de fermeture, réouverture pour les pèlerins locaux, hein, on le précise, il faut être à moins de 100 km pour venir, vous le confirmez. Ce n'est pas un motif pour faire plus de distance.
Ah non, non, nullement. Nous respectons intégralement les normes dictées par les autorités.
Comment vous organisez cette réouverture? Quelles précautions seront prises?
Les précautions, elles sont nombreuses pour permettre à ceux justement qui veulent passer un moment au sanctuaire de pouvoir le faire en toute sécurité. L'accueil est privilégié. Les pèlerins qui arriveront seront accueillis aux portes du sanctuaire par ce qu'on appelle des hospitaliers, c'est-à-dire ceux qui accueillent d'habitude les pèlerins et plus spécialement lorsqu'ils sont présents les pèlerins malades. Et ils seront invités à porter un masque, ils seront invités à bien sûr à garder les distances de protection, ils seront invités à ne pas se rassembler à plus de groupes de 10 dans le plan qui était prévu et qui était soumis aux autorités préfectorales et aux autorités sanitaires. Et puis ils pourront voir une partie du sanctuaire, parce que tout le sanctuaire ne sera pas ouvert, ce sanctuaire fait plus de 50 hectares, mais ils pourront faire les gestes habituels qui sont ceux de Lourdes. C'est-à-dire qu'ils pourront prendre de l'eau grâce aux fontaines qui couleront de manière ininterrompue. Ils pourront, pour ceux qui veulent, se confesser. Ils pourront allumer un cierge dans cette chapelle de lumière et puis surtout se recueillir de l'autre côté du Gave, en face de la grotte. Non pas au pied de la grotte, parce que les chapelains, c'est-à-dire les prêtres et les religieux qui sont au sanctuaire, pris de manière continue depuis 2 mois dans cette grotte, mais de l'autre côté du Gave, ils pourront se recueillir pendant quelques instants.
Donc la grotte ne sera pas ouverte, mais elle sera bien visible, si je comprends bien. Le sanctuaire ouvert uniquement l'après-midi, je crois. Et il faudra réserver pour pouvoir se rendre où on peut arriver comme ça?
Non, il n'est pas nécessaire de réserver. Le sanctuaire est ouvert de 14h à 18h tous les jours. C'est une ouverture progressive, c'est-à-dire que nous espérons bien qu'au fur et à mesure des semaines qui s'écouleront, les mesures qui nous seront demandées permettront que des pèlerins de plus en plus nombreux puissent venir. À l'évidence, la saison des pèlerinages ne sera pas celle qu'elle a été prévue, hein. Mais le fait que le sanctuaire rouvre, c'est une grande joie pour moi comme recteur, bien sûr, mais aussi, je crois, pour les pèlerins, parce que Lourdes a besoin des pèlerins, mais les pèlerins ont besoin de Lourdes. Et tout ce que nous avons vécu depuis 2 mois, nous avons reçu plus de 120 000 intentions de prière du monde entier pour demander à Marie de protéger les gens, d'exaucer leurs prières. Et ces 120 000 intentions de prière, ces contacts continus que nous avons eus avec des pèlerins du monde entier, dans toutes les langues, manifestent bien l'attachement des uns et des autres à Lourdes.
Alors vous dites Lourdes a besoin des pèlerins, et pas seulement sur le plan religieux, hein, puisque le sanctuaire permet aussi à la ville de vivre économiquement. Les commerces autour de vous, autour du sanctuaire, ont aussi pu rouvrir, pu reprendre?
Ils vont, j'espère, pouvoir reprendre, mais cette crise sanitaire est une catastrophe sur le plan économique pour l'ensemble du bassin lourdais. Les hôtels ont fermé, les restaurants, les commerces également. 1 euro dépensé au sanctuaire, c'est 12 euros dépensés dans la ville de Lourdes. Et nous savons, nous, qu'à l'issue de la saison qui s'est ouverte, ou plus exactement qui n'est pas ouverte, le sanctuaire aura une perte d'exploitation de 8 millions d'euros, ce qui ne s'est jamais vu dans notre histoire, alors même que les comptes étaient équilibrés depuis 2 exercices. Et ce n'est que la générosité des pèlerins qui nous aidera à passer ce cap difficile, et nous savons qu'elle ne s'est jamais démentie.
Vous appelez les fidèles à donner, à vous aider. Pour autant, on sait que c'est compliqué, le contexte est difficile pour beaucoup de Français après ces deux mois de confinement.
Bien sûr, je suis bien conscient de cette énorme difficulté dans laquelle se trouvent les Français. Et je sais aussi que la générosité des pèlerins, qu'ils soient français ou qu'ils viennent de tous les pays, parce qu'une des particularités de Lourdes, c'est qu'il y a pratiquement 50% des pèlerins qui sont étrangers. Et donc, j'ai toujours pu compter sur la générosité des uns et des autres, et j'y compte également parce que je la connais.
Quels sont les risques financiers pour le sanctuaire ?
Les risques financiers, c'est le fait de ne pas pouvoir investir comme nous pourrions le faire afin de préparer l'avenir, c'est de ne pas pouvoir redémarrer convenablement. Notre préoccupation, c'est de maintenir l'emploi, parce que c'est essentiel, mais c'est de ne pas pouvoir vivre, préparer le sanctuaire de 2030 tel qu'on peut l'imaginer et le rêver, tel que nous avions envisagé de le faire, et donc de remettre en cause une partie aussi de ce qui fait vivre tout ce bassin lourdais par les initiatives que nous prenions.
Ouais, je donne quelques chiffres, hein, 200 salariés permanents, je crois, au sein même du sanctuaire, mais au-delà, 4000 emplois directs et indirects qui dépendent de ce tourisme cultuel dans la région de Lourdes, qui est la deuxième ville hôtelière de France après Paris. C'est quand même assez fou. Un des grands moments, Olivier Ribadeau-Dumas, un des grands moments chaque été, c'est le pèlerinage du 15 août à Lourdes. 27 000 pèlerins l'année dernière. Comment faire cette année ? Évidemment, ce ne sera pas possible dans les mêmes conditions.
Non, bien évidemment non, ce ne sera pas possible. Mais je tiens beaucoup à ce que le pèlerinage national ait lieu, parce que c'est un événement extrêmement symbolique et très fort. C'est le pèlerinage national français, comme son nom l'indique. Et puis la fête du 15 août, c'est la fête patronale de notre pays. Et dans la limite des 5000 personnes, des rassemblements de 5000 personnes autorisés par le gouvernement, en respectant encore une fois toutes les normes qui sont demandées, nous avons, nous, une basilique souterraine qui peut contenir plus de 20 000 personnes, hein, d'habitude. Donc nous espérons que les pèlerins pourront venir, et nous leur proposons de venir vraiment, parce que c'est un lieu fort, un lieu pour se ressourcer, un lieu pour rendre grâce, un lieu pour supplier. Et c'est un lieu où la fraternité est vécue. Alors Lourdes, c'est unique, parce que c'est de la fraternité vécue. C'est cette rencontre entre les malades et ceux qui les accompagnent, entre les générations, entre les cultures. Et je pense que Lourdes est un signe, non pas simplement pour l'Église, mais pour la société tout entière.
Très concrètement, vous allez organiser comment les choses pour que cette jauge ne soit pas dépassée, pour que les distances soient respectées. On imagine qu'il faut d'autant plus prendre des précautions que ce sont souvent des personnes fragiles qui viennent à Lourdes.
Oui, même si nous savons bien que les malades ne viendront pas cette année. Je pense que c'est impossible qu'ils y viennent parce qu'ils sont trop vulnérables. Mais il y a un système aussi bien de comptage à l'entrée que de marquage au sol, que de barriérage, tout ce qu'on peut imaginer pour permettre que ces mesures soient bien respectées.
Olivier Ribadeau-Dumas, le déconfinement a progressivement commencé, pas pour les messes et les cérémonies religieuses hein, qui restent interdites au moins jusqu'à la fin du mois de mai. Il y a un certain nombre de fidèles qui s'en sont émus. Le Parti chrétien-démocrate notamment estime que c'est une menace sur la liberté de culte. Est-ce que vous, ça vous paraît justifié que les messes ne puissent pas reprendre aujourd'hui ?
Ça me paraît tout à fait normal qu'il y ait des normes sanitaires qui soient édictées pour l'ensemble des rassemblements. Et les cultes sont des rassemblements. Donc il paraît important que l'on puisse respecter cela. Et en même temps, la liberté de culte est une liberté qui est essentielle et qui fait partie du pacte constitutionnel. Donc je pense qu'il faut la respecter. Je ne pense pas pour moi je ne vois aucun procès d'intention dans le gouvernement actuel sur les cultes en disant qu'il faut qu'ils reprennent à une date donnée.
Vous appelez à ce que ça reprenne au plus vite ?
Ben, je souhaite que ça puisse reprendre au plus vite, bien évidemment, mais je n'ai pas qualité en tant que recteur de Lourdes pour dire quoi que ce soit sur ce sujet.
Il a été évoqué une reprise des messes pour le week-end de la Pentecôte. Est-ce que c'est toujours envisagé, à votre connaissance ?
Je n'ai pas d'écho ni de contact direct avec le gouvernement sur ce sujet, mais je n'ai pas entendu dire que cette possibilité puisse être aujourd'hui remise en cause.
C'est une date qui avait été envisagée, qui avait été même prononcée par le Premier ministre pour le dimanche de la Pentecôte, et un calendrier qui semble avoir été calqué sur cette fête catholique. Mais alors quelques jours avant, il y a une fête juive le 28 mai, il y a aussi une fête musulmane pour la fin du ramadan le 24 mai, et les autres religions appellent à pouvoir pratiquer leur culte à ces quelques jours d'intervalle. Est-ce que vous aussi vous dites qu'il faut que les trois religions puissent célébrer leur fête à la fin mai ?
Je laisse aux responsables des cultes le soin de dire ce qui est important pour eux. Ce que je sais, c'est que le rapport des différentes religions au culte est spécifique. Nous n'avons pas, nous catholiques, le même rapport au culte que nos frères juifs ont. Ils ont, eux, développé des liturgies domestiques, alors que la liturgie synagogale est différente. De la même façon, pour les musulmans, il en est différemment, et pour les protestants aussi. Donc je pense que c'est à chaque responsable de culte de dire ce qui est bon pour son propre culte.
Merci beaucoup, merci Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas d'avoir été en direct avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le recteur du sanctuaire de Lourdes qui rouvre partiellement ses portes à partir de ce week-end. Merci.
Merci à vous.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Sébastien Krebs avec la suite du programme.
Isabelle Millet, le rappel des titres à 19h30 et puis après on part en balade justement s'aérer à moins de 100 km évidemment, enfin à moins de 100 km si vous habitez la Côte d'Azur, parce qu'on sera ce soir sur la presqu'île du Cap Ferrat avec Frédéric Michel qui nous emmène en balade et puis on va vous donner plein d'idées si vous n'êtes pas sur la Côte d'Azur pour s'aérer l'esprit avec tous nos experts culture jusqu'à 20h, à tout de suite.
Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Sébastien Krebs.
Le rappel des titres, Isabelle Millet.
Et ce soir, l'OMS dit étudier un lien éventuel entre la maladie de Kawasaki et le Covid-19, alors que plusieurs cas ont été signalés et que l'on a appris, surtout aujourd'hui, la mort à Marseille d'un enfant de 9 ans atteint d'une forme proche de cette maladie de Kawasaki. Il n'avait pas développé les symptômes du Covid-19, mais les tests sérologiques ont montré qu'il avait été en contact avec le coronavirus. Donald Trump, optimiste sur un vaccin contre le coronavirus, il dit en espérer un d'ici la fin de l'année, peut-être même avant. L'Irlande annonce qu'elle va imposer 14 jours de quarantaine aux voyageurs arrivant de l'étranger dans le cadre de son déconfinement progressif qui commence lundi. Le Conseil d'État rejette deux nouvelles demandes qui visaient à faire suspendre en urgence des textes fixant les distances minimales entre les zones d'épandage de pesticides et les habitations. Et puis le foot, Gérard Rouillet, conseiller de Jean-Michel Aulas à Lyon, évoque un complot pour éliminer l'OL privé de Coupe d'Europe après la décision d'arrêter prématurément la Ligue 1 et il pointe même du doigt un axe OM-PSG.
Merci Isabelle Millet, bon week-end à vous, à lundi.
Bon week-end Sébastien.
La météo, Anissa, attention aux orages.
Oui, attention aux orages, notamment dans le sud-est, hein, demain, sur les Alpes, la Provence, sur une partie de la vallée du Rhône. Demain, le ciel sera très gris avec des orages qui vont se développer dans l'après-midi. Sur la moitié nord du pays, c'est encore une très belle journée. Demain, dans un ciel bleu complètement dégagé, le soleil va briller. Les températures, elles sont fraîches pour la saison. 4 à 8 degrés sur la moitié nord demain matin, 8 à 15 au sud. Dans l'après-midi, nous aurons 15 à Cherbourg, 17 à Caen, 19 à Besançon, 20 à Paris et jusqu'à 26 à Ajaccio. Et puis tiens, un coup d'œil plus particulier sur Villefranche-sur-Mer où demain nous aurons de la pluie et seulement 22 degrés. Ah. Dimanche, la journée sera plus ensoleillée avec de belles éclaircies.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Sébastien Krebs. Et on se met en mode week-end, premier week-end déconfiné, avec un tout nouveau rendez-vous dès ce soir, Sébastien.
Et on va prendre l'air maintenant qu'on a le droit d'aller marcher, en tout cas à moins de 100 km. Tous les vendredis soirs sur Europe 1, on va partir en balade dans cette France désormais déconfinée. Vous parliez de Villefranche-sur-Mer, alors demain il va pleuvoir, mais dans les jours qui suivent, il refera beau. C'est là que nous sommes ce soir, sur la Côte d'Azur, avec Frédéric Michel. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Alors, vous nous emmenez ce soir sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, une presqu'île mythique sur un sentier qui longe d'impressionnantes et magnifiques demeures chargées d'histoire.
Effectivement, et parmi ces demeures remarquables, la Villa Nelcott, les Rolling Stones y ont posé leurs valises et leurs guitares. C'était en 1971, pour quelques mois seulement. Le temps de composer un album culte, Exile on Main Street, on vient de franchir à pied la longue plage de Villefranche-sur-Mer et juste en dessous de la voie ferrée, on va emprunter un escalier qui mène à ce bout de presqu'île et à cette incroyable maison. Nous avons rendez-vous avec Pierre-Yves Rechnecker. Il a coécrit avec Pierre Dévoluy aux éditions L'Abbé des Anges deux ouvrages sur les secrets du sentier des douaniers de Golfe-Juan à Menton.
On monte quelques escaliers et on se retrouve sur l'avenue Louise Borde. La villa date de 1899. C'est son troisième propriétaire, un monsieur Goldenberg, américain, qui avait échappé au naufrage du Titanic, qu'il a acheté et qu'il a appelé la Nelcott, qui est la contraction du nom de son domaine aux États-Unis, qui était Nella's Cottage.
Alors avant de se retrouver devant l'imposant portail noir et or, il vous faut marcher quelques dizaines de mètres.
Sous les arbres donc.
Oui, essentiellement des pins, hein, Sébastien. La rue est ombragée et longe la ligne SNCF qui amène les voyageurs vers l'Italie. Et sans cette ligne, il n'y aurait pas eu d'album des Stones.
C'est Keith Richards qui est venu le premier, parce qu'il était en délicatesse avec le fisc britannique. Et la villa est devenue un pôle d'attraction. Et puis, à force de gratter la guitare, ils ont eu envie d'enregistrer. Et pour enregistrer, ils se sont dit, il y a une grande cave, c'est idéal. À part qu'elle est très humide, évidemment, on est au bord de la Méditerranée. Donc, ils mettent de la moquette sur les murs, sur le sol. Ils font une sorte de studio d'enregistrement. Ils font venir un car régie de Londres qu'on installe dehors. Et donc, tout est prêt, sauf l'électricité, il faut quand même du courant. Et donc les techniciens vont faire un branchement sauvage. Ils vont piquer le courant sur les câbles SNCF.
Voilà, et Mick Jagger raconte que ce studio improvisé était tellement humide que les instruments se désaccordaient pendant qu'ils jouaient. Ce qui donne ce son un petit peu particulier à ce dixième album des Stones.
Voilà, Exile on the Main Street, c'était ce dixième album des Stones. Aujourd'hui, on y croise du monde devant cette villa mythique.
Oui, depuis lundi et le déconfinement un peu plus, hein, mais l'endroit reste discret et protégé. Pas de panneau pour rappeler l'histoire, c'est une propriété privée, hein, seule une plaque noire avec le nom Nelcott est apposée sur un des murs de l'entrée du domaine. Pour les promeneurs initiés, c'est arrêt obligatoire devant la plaque. Mais évidemment, la villa Nelcott et toutes ses luxueuses propriétés sont inaccessibles. Vous pouvez juste voir les jardins, les beau pain parasol, mon cher Sébastien.
C'est déjà pas mal. Et la mer. Tout.
Et la mer, évidemment, juste à côté.
Voilà, donc une idée de balade sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Nous sommes sur les bords de la Méditerranée, bien sûr sur la Côte d'Azur avec Frédéric Michel ce soir. Merci beaucoup. Conseil de lecture pour préparer cette balade, les secrets du sentier des douaniers entre Golfe-Juan et Menton. C'est aux éditions de la Baie des Anges et c'est signé Pierre-Yves Rechnecker et Pierre Dévoluy. Merci Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur. On va vous donner plein d'idées pour le week-end jusqu'à 20h et pas seulement sur la Côte d'Azur. On parlait de la villa des Rolling Stones, on va continuer en musique avec vous Angèle Châtelier, bonsoir.
Transition toute trouvée, bonsoir Sébastien.
Plein de nouveautés à écouter ce week-end, mais aussi de l'ancien, du live. Bref Angèle, la musique est loin de s'être arrêtée
et
pendant ce confinement.
On commence par le retour en grande pompe d'une pop star, Katy Perry, qui dévoilait ce matin un nouveau titre, This Is. Déjà presque 1 million de vues en 8 heures sur cette balade folk au clip très bucolique. Katy Perry est en forêt, en robe blanche et elle est enceinte de plusieurs mois. Une grossesse qu'elle montre beaucoup sur ses réseaux sociaux et on le voit donc dans sa musique. Alors on n'a pas encore de date de sortie d'un prochain album, mais s'il arrive ces prochains mois, ce sera le premier de Katy Perry depuis Witness, sorti il y a 3 ans.
Celui-là aussi, le clip, il était assez, il était assez original. Alors, on change de genre, Angèle, avec M, qui a aussi sorti un nouveau titre aujourd'hui.
Oui, Mathieu Chédid, qui a été très présent, lui aussi, sur les réseaux sociaux pendant ce confinement, à nous partager des chansons, des moments de vie, et il y a pris beaucoup de plaisir. C'est ce qu'il racontait au micro de Jean-Philippe Ballas ce matin sur Europe 1.
J'adore l'expérimentation, c'est d'ailleurs pour ça que mon studio, je l'appelle le Labo. Alors, c'est rigolo, parce que Labo et M, ça fait Labo M. J'aime bien expérimenter, et c'est vrai que c'était... J'ai poussé le bouchon assez loin, là, d'une manière très spontanée, mais c'était d'inviter les gens dans mon studio à voir comment je crée les chansons, comment je crée les arrangements. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir un studio où je peux enregistrer des chansons, donc je suis assez créative dans cette période. Ça m'inspire parce que ça me permet d'être plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Il en a fait toutes les semaines, hein, des lives sur les réseaux sociaux M pendant toute la durée du confinement.
Et là, on entend justement « Croix au printemps ». C'est un titre qu'il a composé en plein confinement. Mais alors Sébastien, même s'il est terminé ce confinement, on ne peut toujours pas ressentir la chaleur du live, la présence d'un artiste sur scène. Alors sur quoi se rabattre? Eh bien sur ceux qui sont passés. Dans quelques minutes, un live d'anthologie sera disponible sur YouTube pour récolter des fonds. Un concert qui s'est déroulé le 20 avril 1992 au stade de Wembley de Londres en hommage à Freddie Mercury décédé quelques mois plus tôt. Alors ses acolytes de Queen lui faisaient honneur mais aussi de grandes stars comme David Bowie, Robert Plant, Elton John. Ce live qui avait rapporté des millions de livres à la lutte contre le sida sera donc disponible à partir de 20h sur YouTube et pour 48 heures seulement. Et pour vous mettre en bouche, on peut quand même écouter Freddie Mercury hein, qui avait joué au stade de Wembley quelques années plus tôt avec Queen. C'était en 1986.
C'était
C'était le fameux Live 8.
Ouais. Incroyable. Autre live disponible ce week-end, toujours pour récolter des fonds, c'est celui de Prince avec son groupe The Revolution. Le premier concert du chanteur à avoir été diffusé à la télé. Nous sommes le 30 mars 1985. Prince and The Revolution sont au Carrier Dome de Syracuse, près New York. 1h56 de live qui se termine par une version, attention, de 19 minutes de leur tube Purple Rain. Incroyable. Alors la qualité de l'image n'est pas la meilleure, hein, mais mettez ça dans vos oreilles et vous ressentirez à nouveau les vibrations d'un concert. Mais alors pour ça, vous avez seulement quelques jours. Ce live disparaîtra lundi à 7h du matin.
Minutes, vous dites ?
Ah ouais.
Allez, on a le temps là. On est jusqu'à 20h, c'est bon, on est bon. Des classiques ce soir avec Angèle Châtelier en live, déniché sur internet. Merci Angèle, spécialiste musique d'Europe 1. Vous restez avec nous sur Europe 1 jusqu'à 20h. On vous donne plein d'idées pour s'occuper ce week-end. On va parler cinéma et puis on vous donne la parole. On vous écoute sur Europe 1. Vous faites quoi ce week-end ? 39-21. Hashtag radio ouverte. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Sébastien Krebs. Et on s'intéresse à ce tout premier week-end déconfiné avec beaucoup d'idées. Venez nous dire aussi ce que vous avez prévu ce week-end au 39-21 ou sur Twitter, hashtag radio ouverte.
Et c'est exactement ce qu'a fait Stéphane. Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Pau. Merci d'être voilà, avec nous sur Europe 1, la radio ouverte. Vous faites quoi ce week-end ?
Alors ce week-end, on va pas trop changer pour samedi parce que c'est la distribution de masques, les masques situés par la mairie. Et qu'on distribue à tous les habitants du village.
Ah, c'est oui, c'est un autre aspect du déconfinement, bien sûr, voilà. Fournir des masques à la population.
Fournir des masques, voilà. On a eu un peu de mal aussi à les avoir tous, mais bon, on y arrive. Et bon, c'est un petit village, hein, 2000 habitants. Donc on fournit ça, on distribue ça samedi. Dimanche matin, peut-être sortie d'été si je suis très motivé en respectant les mesures Covid. Selon les préconisations de la Fédé, et l'après-midi en famille, bricolage pour préparer la mise en place d'une petite piscine hors sol qu'on a achetée parce que on s'est dit qu'on allait annuler nos vacances pour arrêter de se poser la question si on partait ou si on partait pas, si on allait pouvoir ou pas.
Vous ne partirez pas cet été malgré les annonces voilà. de cette semaine du gouvernement qui dit on pourra partir en France cet été. Vous, pour vous, ce sera à la maison.
Voilà, mais du coup, on avait annulé déjà la semaine dernière, en fait. Pour voilà. Après, on a la chance d'avoir une maison avec un jardin. On n'est pas loin de la mer, on n'est pas loin de la montagne. Donc, si on peut aller à la plage, bon, un jour ou deux, on ira peut-être un jour par semaine, je sais pas. Nous, on a la chance d'avoir la proximité quand même de trucs oui. qui sont pas mal à faire.
Vous avez de la chance, c'est les Pyrénées Atlantiques.
Voilà. C'est ça, on a préféré annuler les vacances à l'île de Ré, parce qu'on ne savait pas trop si on allait pouvoir se baigner.
Merci beaucoup Stéphane. Voilà. Merci de nous avoir appelé ce soir au 39-21. Et très bon week-end à vous. On parle cinéma, Mathieu Charrier, bonsoir.
Salut Sébastien, bonsoir à tous.
Alors cinéma sans cinéma, parce qu'évidemment on ne va pas dans les salles, c'est toujours fermé.
Pas de problème.
Mais quelques idées de films à voir à la maison, avec d'abord La promesse de l'aube, adaptée du roman autobiographique que Romain Gary avait publié en 1960.
Exactement, c'est Pierre Niney qui joue le rôle de Romain Gary, Charlotte Gainsbourg, celui de sa maman et bien plus d'ailleurs, parce que si vous avez lu le livre, vous allez retrouver dans ce film la folie de cette mère juive polonaise qui rêvait de devenir actrice et doit fuir Varsovie avec son fils et l'argenterie accessoirement pour s'installer à Nice. Elle est extravagante, castratrice, mais finalement elle va tellement lui répéter qu'il va réussir, qu'il est capable de tout, que Romain Gary va devenir ce grand écrivain, ambassadeur et même aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale.
J'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi.
Pas peintre.
Van Gogh s'est suicidé à 35 ans.
Je veux que tu sois célèbre de ton vivant.
Nous nous résignâmes à la littérature.
Il y a trois raisons qui méritent que tu te battes. Les femmes, l'honneur et la France. Et Sarah Victor Hugo.
Romain, qu'est-ce qui se passe ?
Tu veux pas me foutre un peu la paix
et t'occuper de ta vie ?
Voilà pour l'ambiance de ce film. Avec cette voix off, hein, Romain Gary se raconte dans cette grande saga historique, très classique sur la forme, mais il y a aussi de vrais moments drôles.
Romain Gary donc est interprété par Pierre Niney.
Ouais, très crédible une nouvelle fois, après avoir joué notamment le fils Cousteau dans l'Odyssée ou Yves Saint-Laurent, vous en rappelez sans doute, dans le film éponyme de Jalil Lespère.
Romain Gary, on m'aurait proposé son biopic, j'aurais pas fait, parce que j'ai pas du tout envie de collectionner tous les gens du Panthéon, ouais, c'est ça. Mais j'ai accepté parce que pour moi c'est un roman sur la maternité, sur l'amour des mères. Il est devenu cet artiste parce qu'elle l'a poussé à ça. Il a aimé la France parce qu'elle aimait la France, une terre d'accueil, une terre de culture aussi, la patrie de Victor Hugo. Il le disait lui, il disait on pourra jamais comprendre mon œuvre si on comprend pas d'abord que chaque livre que j'écris est une déclaration d'amour à la féminité.
C'est beau, hein. Voilà. En tout cas, c'est un film complet d'un peu plus de deux heures. Pas ennuyé du tout. Le réalisateur Éric Barbier a réussi à faire de ce livre, qui avait déjà été adapté par Jules Dassin, il a réussi à en faire un film grand public. Et franchement, c'est idéal à regarder en famille ce week-end, par exemple.
Par exemple, Charlotte Gainsbourg et Pierre Ninet, donc dans La promesse de l'aube d'Éric Barbier. Mathieu Charrier, vous vouliez aussi nous parler d'un coup de cœur, surprise de cette fin d'année, A Ghost Story.
Ah ouais, qu'on peut traduire par une histoire de fantôme. Vous avez un couple fusionnel, joué par Rooney Mara et Casey Affleck, qui vivent dans une petite maison. Elle veut déménager, lui non. Et un matin, il meurt dans un accident de la route. Sauf que son fantôme, véritablement, va revenir. Il est présenté à l'écran sous un grand drap blanc, tout simplement. Et jour après jour, il va observer le quotidien de sa femme qui tente de se reconstruire. Elle, évidemment, ne le voit pas. C'est un tout petit film tourné en 9 jours, 150 000 $ de budget, c'est rien. Et pourtant, The Ghost Story est un chef-d'œuvre d'une sublime mélancolie qui nous interroge sur le deuil, sur le temps qui passe, sur la solitude, sur le lien aussi que l'on construit avec les lieux. Vous savez, on est souvent attaché à une maison, à un lieu, à la maison de sa grand-mère. Mmh. Ce fantôme, il dégage beaucoup plus de sentiments, je peux vous dire, que bon nombre d'acteurs. Et pourtant, il est sous un drap. Ça dure 1h27, c'est bouleversant. Et vraiment, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, c'est un tout petit film, donc il y a de fortes chances que vous ne l'ayez pas vu. Allez-y, regardez ça en VOD, c'est disponible un peu partout.
On le trouve facilement ?
Ouais,
sur les plateformes.
Vous tapez A Ghost Story sur les plateformes et vous pouvez le louer à quelques euros. Ça s'appelle donc A Ghost Story, c'est signé David Lowery.
Voilà, quelques idées, en l'occurrence deux idées de films pour ce week-end. Merci Mathieu Charrier, bon week-end.
Avec plaisir, bon week-end.
Et je salue Diane Chenouda. Bonsoir Diane.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Alors il y a aussi des musées et des sites qui commencent progressivement à rouvrir leurs portes pour ce week-end.
Oui, Sébastien. Alors, ce n'est pas un mirage. On peut se rendre au musée de l'Illusion au cœur de Paris. Ce qui est assez cocasse, c'est que, bien, c'est le seul à avoir pu rouvrir dès lundi, dès le 11, avec des illusions d'optique à expérimenter en famille. Alors, évidemment, avec masque, gel et distanciation réglementaire. D'ailleurs, on ne peut plus être que 2 au lieu de 10 par salle. C'est un dispositif, d'ailleurs, que l'on retrouve un peu partout, également à l'Institut Giacometti. Alors, je vous en parlais un peu hier. C'est le seul musée d'art qui a pour l'instant rouvert dans Paris, un petit musée de quartier, moi que j'adore, qui est plein de charme. C'est une villa nichée dans la verdure, dans le 14e arrondissement, près de la Fondation Cartier. Et franchement, ça vaut le détour. Avec l'atelier Giacometti, reconstitué à l'identique, c'est quand même fascinant. Et puis, une exposition en ce moment sur les œuvres disparues du sculpteur. Certaines ont été vendues quand il était jeune et sont maintenant en main privée. Eh bien, on peut les découvrir, ces sculptures inconnues de sa période néo-cubiste, à travers des photos, des dessins, des croquis. Il y a même le moule original de la femme qui marche. Si, hein, Sébastien, il n'y a pas que l'homme qui marche. Très ouais, inspiré de l'art égyptien. Et alors, pour ceux qui ont la chance de vivre en bord de Loire, pas très loin d'Amboise, on a le Festival International des Jardins qui ouvre dès demain samedi à Chaumont-sur-Loire. C'est un très très beau domaine. On peut déambuler au milieu d'une trentaine de jardins créés cette année selon des pratiques ancestrales, des jardins très écolos. Alors attention, il faut réserver sur internet pour tous ces lieux qui ouvrent.
Oui, donc ce festival qui a lieu tous les ans, qui est maintenu, donc le Festival des Jardins à Chaumont-sur-Loire.
Il ouvre avec plusieurs semaines de retard, mais il ouvre enfin.
Alors, vous avez aussi eu un coup de cœur, Diane, pour Turner.
Oui, j'adore Turner et je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site du musée Jacques Marandré pour découvrir cette expo Turner qui a dû hélas fermer juste après son ouverture, juste avant le confinement. Alors évidemment, rien ne vaut de voir en vrai, en chair, en os, si j'ose dire, les aquarelles et les toiles de cet immense peintre anglais, mais vous pouvez déjà les admirer grâce à une visite virtuelle avec commentaires. Alors il y a en tout une 60aine d'aquarelles, une 10aine de peintures de Turner, la plupart sont totalement inédite, remarquablement conservée, c'est incroyable. Il y a des paysages, des forêts, des montagnes, ces châteaux qui surgissent dans la brume. On est stupéfait vraiment par la beauté de ces aquarelles que Turner a peintes dans son atelier, mais tirées de ses croquis de voyage et de son imaginaire. Alors, il y a des vues du Mont Blanc, par exemple, qui sont spectaculaires. Les peintures aussi sont très très belles, avec des vues de Venise, mais alors à tomber par terre, et des vues aussi d'un océan en tempête, vraiment à la limite de l'abstraction, c'est incroyable.
Voilà, c'est sur le site du musée Jacques Marandré qui lui n'a pas encore pu rouvrir à Paris.
Non, on ne sait pas encore quand.
Bon week-end à vous, Diane Chenouda. Vous allez faire un petit tour à vélo.
Ah oui, 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 oui. Absolument.
Et vous savez quoi, et Marion Sauveur nous emmène en pique-nique. Vous restez avec nous sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 20h.
Journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous Sébastien Krebs et on a le sourire parce que c'est le premier week-end déconfiné. Alors toute l'équipe d'Europe 1 s'est mobilisée pour vous donner de bonnes idées pour sortir ou pas, mais en tout cas pour s'occuper. Et vous pouvez également nous rejoindre au 39 21.
Ouais, on va prendre l'air ce week-end à 100 km hein, maximum, mais on va prendre l'air quand même. Et pour finir la balade, Marion Sauveur va nous emmener en pique-nique avec quelques conseils dans un instant. D'abord avec vous Clémence Olivier, bonsoir.
Bonsoir Sébastien,
on va parler jeux vidéo avec un tout nouveau podcast qui a été produit par Europe 1 Studio.
Oui, ça s'appelle Gamers et dans ce podcast, on vous raconte les histoires secrètes de jeux vidéo cultes comme Tetris, Les Sims ou Final Fantasy. En gros, dans chaque épisode, Jean-François Maurice, qui est rédacteur en chef à Jeux Vidéo Magazine, il s'intéresse à une grande saga. Et dans le premier, il nous raconte l'histoire d'un jeu français célèbre, Assassin's Creed.
S'il innove dans le fond, avec cet incroyable background historique, Assassin's Creed se distingue aussi dans la forme. Il confirme la tendance des jeux en monde ouvert, popularisée à l'époque par GTA 3. Dans cette aventure, le joueur peut se balader où bon lui semble, en compagnie d'Altaïr, le charismatique héros. Quand il sort en 2007, Assassin's Creed propulse les joueurs en 1190, à Jérusalem, en pleine troisième croisade. Une plongée dans l'histoire unique.
Mais ce qui fait la particularité, le sel de ce podcast, c'est que le journaliste donne la parole à des hommes et à des femmes auxquels on a rarement accès dans les médias. Il tend le micro aux créateurs des jeux, aux illustrateurs, et dans le premier épisode, à l'historien d'Assassin's Creed, Maxime Durand.
Comme historien, ce que j'appréciais de ce jeu-là, et ce que j'apprécie encore, c'est toujours la question du contact avec l'histoire. Le fait de rendre les choses, par exemple la peinture de la Renaissance italienne, de les rendre sexy, de les rendre accessibles, de les rendre intéressantes à des gens qui ne sont pas nécessairement des fans de peinture parce qu'ils ont eu envie d'aller massacrer un duc italien de l'époque.
Alors si je comprends bien Clémence, on est vraiment sur l'histoire, sur la conception donc de ces jeux vidéo cultes, pas besoin d'être un pro de la console et des jeux vidéo.
Non, pas du tout. Même moi, je suis pas une grande gameuse et pourtant, ça m'a intéressée parce que le podcast fourmille d'anecdotes. On y apprend par exemple que le créateur de Tetris a dû attendre des années avant de toucher de l'argent sur son jeu. Bref, c'est ludique et instructif. Et pour ceux qui s'intéressent davantage à l'expérience de jeu, sachez que chaque épisode est accompagné d'un bonus dans lequel des youtubeurs ou des humoristes racontent leurs souvenirs de jeu.
Voilà, ça s'appelle Gamers, le nouveau podcast produit par Europe 1 Studio, podcast en 6 épisodes et qui est disponible sur europe1.fr et sur toutes les plateformes habituelles d'écoute. Merci Clémence Olivier, bon week-end à vous.
Merci, bon week-end.
Allez, on part en balade avec le podcast dans les oreilles, pourquoi pas. Et on se pose dans l'herbe pour pique-niquer. Enfin, on a enfin le droit. Marion Sauveur, bonsoir.
Bonsoir.
On va arrêter de cuisiner et de manger dans notre cuisine. On va aller s'aérer ce week-end avec un pique-nique. Quelle recette vous pouvez nous proposer ?
Allez, 3 recettes pour un pique-nique réussi. Et on commence bien sûr avec l'indispensable du pique-nique, Sébastien. Ce sont les chips.
Ah, oui.
Alors là, cette fois, on change. Pas des pommes de terre.
Et vous allez faire vous-même.
Bah évidemment. Oui, bien sûr, avec de la patate douce. Et on commence par faire des rondelles de patate douce. Donc là, avec la mandoline, vous l'entendez. Et l'important, c'est de faire des tranches très très fines. Ces tranches, ensuite, je les malaxe avec de l'huile d'olive, un petit peu de sel, allez, un peu de piment d'Espelette pour donner du goût. Vous pouvez ajouter, bien sûr, de votre côté, d'autres herbes aromatiques, d'autres épices. Et il faut en tout cas qu'elles soient bien imbibées. Je les pose ensuite sur une plaque du four, recouverte, bien sûr, de papier cuisson, les unes à côté des autres, mais surtout pas superposées. Allez, hop, on met dans le four pour 20 bonnes minutes et elles sont cuites quand les bords ont pris une belle couleur dorée. Et à la sortie du four, on les laisse refroidir 5 minutes et regardez Sébastien.
Ah, ça croustille.
Ça croque.
Ça a marché donc. C'est facile ?
Oui, complètement. C'est pas très compliqué à faire. C'est un peu long, il faut de la patience hein, bien sûr. Puisqu'il faut que les pommes de terre, les patates douces, pardon, cuisent les unes après les autres à côté. Donc une grosse patate douce, ça met un petit peu de temps. Et pour le pique-nique, on prépare bien sûr des portions individuelles pour que tout le monde ne plonge pas ses mains dans le même saladier.
Voilà, il va falloir s'habituer aussi à ces nouveaux gestes, que ce soit pour l'apéro ou pour le pique-nique. Qu'est-ce qu'on peut emporter d'autre ? Vous auriez de quoi tartiner du bon pain ?
Allez, c'est la saison des artichauts. Alors, je vous propose de réaliser un caviar d'artichauts. C'est tout simple aussi, vous allez voir. Et c'est délicieux, soit sur du pain frais ou sur du pain toasté. Moi, j'adore ça. Alors, le plus difficile dans cette histoire, c'est de tourner les artichauts. C'est de leur enlever ces feuilles dures pour ne garder que le cœur de l'artichaut. Alors, on commence par couper la queue, vous entendez ? On enlève les deux rangs des feuilles ensuite à la main. Et puis, on prend un couteau. Alors, il faut un couteau qui coupe bien. Et vous coupez la base des feuilles, la chair apparaît et là vous coupez toutes les feuilles autour qui sont un petit peu dures. Alors si ce sont des gros artichauts, vous enlevez le foin au milieu avec une cuillère, c'est ce qu'il y a de plus simple.
Ouais, c'est pas évident les artichauts.
Non. Il faut un peu s'entraîner. Alors moi j'ai des petits artichauts en ce moment, sur des gros c'est un peu plus compliqué, mais avec des petits on s'entraîne, le premier on rate un petit peu et puis après ça va mieux sur les autres. Et il faut bien penser à citronner l'artichaut au fur et à mesure quand vous enlevez comme ça ses feuilles pour éviter qu'il ne s'oxyde. Donc voilà, exactement. Vous prenez votre citron et hop, vous reprenez votre couteau. Une fois que vous avez vos cœurs d'artichaut sans les feuilles ni le foin, on les cuit avant de les mixer. Avec de l'ail, du parmesan, des pignons de pin et beaucoup d'huile d'olive, ça c'est important. On mixe jusqu'à obtenir cette bonne consistance, celle qui vous plaît hein, bien sûr. On sale au poivre et c'est prêt.
Voilà, et on trempe les chips dedans, comme ça c'est pratique. Ou on tartine sur le pain, tout est possible. Un petit dessert ?
Bien sûr, qu'est-ce que vous pensez d'un fraisier ?
Allez, je prends.
Alors un fraisier en pot, un fraisier, sinon ce serait un peu compliqué. On prend des gâteaux secs du placard et on les casse. Et on obtient des petits morceaux de gâteau, alors pas trop petits hein, non plus. On les met au fond d'un petit pot. Là maintenant, je coupe joliment des fraises. On les met au bord du pot comme pour le fraisier. Il faut que ce soit joli à l'extérieur. Et je vais faire une crème en battant un jaune d'œuf avec du sucre au fouet. Voilà, jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça soit mousseux. Et là, on y ajoute le mascarpone. Et puis, on met au réfrigérateur. Il n'y a plus qu'à tremper la cuillère dedans. Vous allez voir, c'est délicieux.
Ah bah voilà, on a de quoi se faire un petit pique-nique. Allez, on va à moins de 100 km. On prend plutôt son vélo que sa voiture. Et puis c'est parti. Merci Marion Sauveur.
Avec grand plaisir.
On vous retrouve demain avec Laurent Mariotte, la table des bons vivants. Ça continue, évidemment, c'est à partir de 11h. Sur Europe 1, bon week-end à vous. Il est quasiment 20h. Voilà les derniers applaudissements qui continuent pour les soignants. Ils ont aussi ouvert notre tranche à 18h, ces soignants. On continue de les applaudir. Et à 20h, c'est Émilie Mazoyer qui est avec vous pour musique. Avec ce soir, le concert de Michel Polnareff, live at the Roxy. Et le titre inédit de Mathieu Chédid. On en parlait tout à l'heure, vous allez pouvoir l'entendre en entier. Croix au printemps, qui a été composé en plein confinement et dont les droits iront, et c'est important, au Secours Populaire. Je vous souhaite un très bon week-end, merci de nous faire confiance. On se retrouve lundi 18h pour votre grand journal du soir. Belle soirée.
C'était Sébastien Krebs. Vous écoutez Europe 1, il est 20h.